Chers auditeurs, bonjour. Cette semaine, je souhaite aux Winbo, Filaret, Notker, Gennart, Oettich, Elston et plus classique Célestin une très bonne fête. Encore des prénoms rares, mais croyez-moi, ils n'ont pas volé leur titre de saint. J'en profite pour vous inviter à aller sur le site Nominis, qui regorge des renseignements très intéressants sur ces saints peu connus. Alors, chers auditeurs, bienvenue à Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Je suis très heureuse de vous accueillir cette semaine encore et je vous invite à vous rendre sur le site 1000 raisons de croire, 1000 en chiffres, 1000raisonsdecroire.com pour y découvrir toute l'actualité de cette branche de notre association ainsi que notre magazine. Si vous voulez être nos relais en province pour distribuer des numéros gratuits de nos publications, soit dans votre paroisse, soit dans les boîtes aux lettres, nous faisons une vaste campagne d'évangélisation. Alors, vous pouvez nous joindre par la permanence téléphonique au 01 42 50 19 65 en demandant à parler à France. Ce numéro, vous le trouvez aussi sur le site. Ou alors par mail à magnificat@mariedenazareth.com. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en libre accès sur notre site mariedenazareth.com, tout en bas dans la rubrique « Podcast ». Alors, cette semaine, Justina, vous allez nous parler de Saint-Marc?
Oui, tout à fait. Bonjour.
Bonjour, Justina. Puis nous recevrons Louis-Marie Robert, déjà à nos côtés en studio. Bonjour, Louis-Marie.
Bonjour.
Vous êtes compositeur de musique sacrée. Nous parlerons de vos œuvres tout à l'heure. Alors, Justina, à une époque où la liberté est sur toutes les lèvres, vous allez nous parler de quelque chose de bien particulier.
Oui. Donc, aujourd'hui, nous avons... Je vais commenter un texte de l'évangéliste Marc, chapitre 10, verset du 32 au 45, qui a été lu aujourd'hui donc, dans l'église orthodoxe. Donc je vais lire le texte et le commenter. « En ces temps-là, ils étaient en route montant à Jérusalem, et Jésus marchait devant eux. Ils étaient dans la stupeur, et ceux qui suivaient étaient effrayés. Prenant de nouveau les 12 avec lui, il s'est mis à leur dire ce qui allait lui arriver. » Voici que nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. Ils le bafoueront, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et après 3 jours, il ressuscitera. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, avancent vers lui. Ils lui disent, « Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils. » De siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Ils lui dirent, nous le pouvons. Jésus leur dit, la coupe que je vais boire, vous la boirez, et le baptême dont je vais être baptisé, vous en serez baptisé. Quand est siégé à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder, mais c'est pour ceux qu'il a été destiné. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Les ayant appelés près de lui, Jésus leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations dominent sur elles, en maîtres et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas être ainsi parmi vous, au contraire. Celui qui voudra devenir le plus grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Aussi bien le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Eh bien, chers auditeurs, c'est une lecture que je trouve personnellement des plus dramatiques du Nouveau Testament, même plus dramatique que les récits de la Passion. La Passion est une souffrance atroce, charnelle, mais l'incompréhension et la non-écoute devraient être classées, selon moi, parmi les méthodes de torture, voire de meurtre. Pour tuer, il n'y a pas toujours besoin d'un couteau ou de poison. On peut assassiner par l'indifférence, étouffer par le silence et tuer par l'incompréhension. Le Christ annonce ce qui doit arriver d'ici peu après son entrée à Jérusalem. Il annonce sa mort et sa résurrection. Les apôtres non seulement n'essayent pas de comprendre ce qu'il dit, mais se projettent dans un avenir imaginaire de l'ère messianique qui, selon leur croyance populaire, est une domination sur leur peuple et les voisins. Et voici qu'ils débattent qui sera à la gauche et qui sera à la droite du Messie, tandis que le Messie leur dit que les choses ne vont pas se dérouler comme ils espèrent. mais ils ne l'écoutent pas. Ils arrivent à se disputer pour les places qui ne sont même pas annoncées. Ils prétendent pouvoir boire la même coupe que le Christ, et c'est ce qui va leur arriver. Ils vont tous finir martyrs. Seul Jean va mourir de vieillesse. Les apôtres ont encore beaucoup à apprendre et à comprendre afin de dépasser le fardeau de la coutume et devenir réellement apôtres. Pour le moment, ce ne sont que des zélotes juifs qui veulent un messie terrestre et la gloire terrestre qui va avec. Il leur reste encore à vivre le véritable retournement de la pensée, la métanoïa, le repentir, retournement d'intelligence, et recevoir l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte afin de commencer leur mission. Le Christ les met en garde d'avoir ses prétentions de pouvoir entre eux dans l'avenir en soulignant que celui qui veut avoir le plus de responsabilités aura le plus de travail à faire. Si seulement toutes les personnes concernées, notamment parmi les évêques, avaient encore cette conscience. Pour les autres responsables, que ce soit des managers de tout niveau ou des personnalités politiques, j'en parle même pas, ils n'ont pas cette notion à prendre en compte s'ils ne sont pas chrétiens. Par rapport à la rançon et l'interprétation juridique du salut, j'ai découvert une chose récemment. En effet, dans l'Antiquité, il y avait une institution du patronat. Quand un esclave accumulait suffisamment de moyens pour racheter sa liberté, il ne payait pas directement son propriétaire, mais passait par un lieu de culte. Il donnait l'argent au clergé, admettons du temple d'Artémis, et le clergé en question rend l'argent à l'ex-propriétaire de l'esclave en question. Cet ex-esclave devient désormais libre et se considère sous le patronat d'Artémis ou une autre divinité. Dans notre cas chrétien, c'est bien la raison pour laquelle on appelle un fidèle baptisé serviteur de Dieu, car dans son baptême, il rentre dans ce patronat du Christ. Le Christ le rachète à son ancien propriétaire, c'est-à-dire l'Adam déchu ou le péché. Et donc le nouveau baptisé est le serviteur du Christ. C'est une analogie très intéressante dans le contexte de l'époque à laquelle les apôtres ont prêché, mais hélas, si on prend cette expression de manière trop littérale, et n'oubliez pas que l'analogie en débat ne vaut pas un argument, cela peut nous donner une très mauvaise théologie à la suite. Il y a 3 jours, j'ai entendu un évangélique dire que grâce au sacrifice du Christ, Dieu le Père a eu enfin le droit de nous pardonner. Mais enfin, Dieu le Père a-t-il besoin d'obtenir des droits de la part de qui que ce soit ? À méditer.
C'est sûr. Merci beaucoup, Justina. Alors, à présent, nous allons écouter « Je ne désire que vous » de Louis-Marie Robert. Merci Louis-Marie pour cette belle œuvre. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi est-ce que vous souhaitiez que nous diffusions ? Je vous ai demandé qu'est-ce que vous aimeriez que nous écoutions et vous m'avez dit « Je ne désire que vous ». Pourquoi ?
C'est peut-être parce que c'est ce que j'ai le plus envie de communiquer. Oui. C'est que mon seul désir, c'est le Christ et je veux le partager parce que c'est ce qui m'anime le plus. Et cette composition, c'est un peu un petit cri du cœur que j'avais depuis longtemps envie d'exprimer musicalement. Et en fait, c'est un peu une phrase que je marmonne à la manière d'une prière du cœur, souvent.
D'accord, merci beaucoup. Alors, donc, Louis-Marie, vous êtes compositeur et chef de chœur du CRAC.
Oui.
Que veut dire cet acronyme ?
Le CRAC, c'est le chœur religieux Antoine Copé que j'ai créé en 2020.
Qui est Antoine Copé ?
Antoine Copé, c'était mon chef scout,
oui.
Qui était également compositeur et chanteur-interprète de musique sacrée.
Oui.
Et quand j'ai moi-même commencé à écrire de la musique, il m'a beaucoup encouragé, il m'a un peu pris sous son aile. Et malheureusement, il est décédé d'un accident de voiture en 2020, au moment où je commençais à écrire et à former le chœur.
Oui.
Donc j'ai proposé à mes choristes de donner ce nom de chœur religieux Antoine Copé à notre chorale.
On va écouter quelques secondes votre très belle prière du soir. C'est très touchant. Il chantait dans cet enregistrement.
Oui, en fait, cette histoire est très touchante. Je venais d'écrire la prière du soir sur partition et en tant que mentor, je lui envoie cette partition, lui demandant son avis. Et tout de suite après, il m'envoie un message vocal avec le premier couplet qu'il a lui-même interprété.
Ah oui.
Et il me dit juste après, je te fais la suite dans la semaine. Et il est mort cette semaine-là.
Ah oui.
Donc, c'est vraiment les derniers mots que j'ai de lui, c'est cette prière du soir. Où il nous dit, ô doux Jésus, garde-moi dans tes bras, gardez-moi dans vos bras.
C'est vraiment très touchant. Alors, j'ai découvert, en fait, sur mon fil Insta, ce morceau. J'ai vraiment été tout de suite très touchée. Tu vois, je vous ai envoyé un mail en vous demandant la partition, si je pouvais l'acheter.
Bien sûr.
Que, étant dans une chorale, je pense que nous aimerons la chanter. Chers auditeurs, je vous invite à faire de même, hein, parce qu'il faut faire vivre nos compositeurs. Et donc, n'hésitez pas à commander des partitions. Comment est-ce qu'on peut faire pour se les procurer, dites-nous.
Eh bien, vous pouvez m'adresser un mail
à
louismarierobert97@gmail.com et je vous réponds et je vous envoie les partitions que vous demandez.
louismarierobert97@gmail.com.
Voilà.
Très bien. Alors, il y a d'autres morceaux que j'aime beaucoup. Je pensais à Crucifixus, dont nous écouterons un extrait à la fin de l'émission. On vous sent vraiment imprégné de ceux qui ont composé avant vous. On sent vraiment que vous faites partie déjà de leur famille, alors que vous êtes tout jeune. Quels sont vos compositeurs favoris, préférés? Quels sont ceux qui vous touchent le plus?
Alors, j'en nomme trois généralement quand on me pose cette question. J'aime énormément Francis Poulenc, donc compositeur du XXe siècle.
Oui.
J'aime beaucoup aussi Arvo Pärt, compositeur estonien du contemporain, il est toujours vivant.
Ah oui, d'accord.
Et ma découverte qui m'anime depuis quelques temps, c'est Jean-Charles Gandril, donc, qui est organiste et compositeur.
Je vois très bien.
Particulièrement, et j'aime vraiment tout ce qu'il fait récemment. J'ai vraiment beaucoup écouté récemment.
C'est notre organiste sur notre paroisse qui accompagne notre chœur. C'est amusant.
Il est exceptionnel.
Je lui dirai. Alors, vous dites par ailleurs qu'il est bon de chanter de la musique sacrée, que c'est bon pour la santé.
Je le crois.
Vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là.
En fait, c'est un ressenti très personnel, mais depuis que je chante de la musique sacrée, que j'en écris, que j'en écoute, je trouve que la musique agit réellement en nous et je n'ai que des témoignages dans ce sens de mes choristes qui, après une séance de répétition qui est pourtant rude, on travaille dur et nous on répète en fin de semaine avec tous les emplois du temps qui compliquent tout cela. En fait, on se rend compte souvent collectivement que cette musique apaise énormément et qu'elle, je le vois comme une respiration.
Oui.
Et généralement, on termine un concert ou une répétition avec un grand sentiment de paix intérieure, par le texte que l'on dit, répéter du texte, souvent des psaumes, tout ça, des textes sacrés, ça nous fait du bien dans l'âme. Mais en même temps, la musique sacrée, c'est quelque chose qui appelle au calme, c'est quelque chose qui appelle à lâcher prise, en fait. Et le chant, plus le texte, plus ce côté mélodique d'humilité qui nous demande de lâcher prise, je pense que ça fait énormément de bien à ceux qui écoutent et qui chantent du chant sacré.
Vous dites aussi que la musique sacrée prend son temps, qu'elle nous éduque.
Oui.
Qu'est-ce que vous entendez par là?
En fait, la musique sacrée, on le voit dans toute son histoire avec le grégorien ou d'autres, les premières compositions de musique sacrée de la Renaissance en polyphonie. On voit que c'est une musique qui ne veut pas se faire commerciale. Elle ne veut pas donner tout de suite à l'auditeur. Elle a besoin de prendre son temps. elle a besoin de laisser patienter, elle a besoin de laisser de mûrir pour être appréciée pleinement. Et je prends souvent cet exemple d'un compositeur que j'ai cité, Arvo Pärt, donc cet Estonien. Il fait parfois des musiques sacrées où on attend 8 mesures avant de changer d'accord, on attend un quart d'heure avant d'avoir la partie la plus intéressante de la pièce, que ce soit au niveau harmonique ou au niveau expression. Et en fait, je pense qu'on ne pourrait pas savourer de la même manière cette beauté si on n'avait pas pris justement 10-15 minutes de préparation à ce moment. Et en fait, ça en devient presque une attente comme l'attente du retour du Christ, quand la musique s'étend dans le temps et la longueur. Je le vois comme ça.
Ça veut donc dire qu'on ne peut pas forcément être éduqué par un morceau beaucoup plus court ?
Je pense que si. Mais je pense que, quelle que soit la durée du morceau, la musique sacrée, elle prend quand même son temps. Même si le morceau dure 2-3 minutes, ce qui est très court, eh bien en fait, il y a quand même une notion de temps où on ne veut pas tout donner tout de suite. Il y a une notion d'humilité dans cette musique qui me touche beaucoup.
Je vais peut-être être un peu indiscrète, mais on vous sent pétri de foi. Est-ce que vous priez beaucoup avant de composer ?
Je pense que je prie en composant le plus. C'est comme je compose beaucoup sur des textes, et ben la lecture d'un texte sacré, c'est déjà de la prière. Et souvent, je dis souvent que je compose la musique qui me manque. Et quand j'ai besoin d'écrire, quand j'ai besoin de quelque chose en particulier, d'une musique en particulier pour accompagner ma prière, eh bien, c'est peut-être de la solution de facilité, mais je me mets à mon piano et j'écris ce que j'ai envie d'entendre. Et donc, je vois ça comme une prière, en fait. Je vois ça comme répondre aux besoins de Dieu et le rechercher dans le beau.
Vous dites que vous vous mettez à votre piano pour composer. Uniquement, c'est pas uniquement par ce biais-là que vous composez ?
Non, pas uniquement. Cela m'arrive souvent de fredonner des petits airs qui me viennent en tête en lisant, par exemple, des psaumes.
Oui.
J'ouvre mon psautier et en lisant, je chante en improvisant.
Oui.
Et parfois, ça donne quelque chose qui me plaît. Et donc, je sors vite de quoi enregistrer ou de quoi noter pour le mettre de côté. Et souvent, très souvent le week-end, je prends tout ce que j'ai enregistré ou mis de côté ou par écrit dans la semaine. Et j'essaye d'ordonner ça pour que ça ressemble à quelque chose.
Alors ça, c'est une question que je me suis souvent posée. Quand un compositeur, justement, a une mélodie, effectivement, il faut la garder, cette mélodie.
Oui.
Donc, parce que vous pensez qu'au bout d'une semaine, vous ne vous en souviendriez plus ?
D'expérience, je vous réponds oui.
Oui.
Donc, c'est pour
d'accord.
ça que mon téléphone est rempli de notes, d'un petit enregistrement de ma voix qui fredonne des petits bouts de mélodie.
Alors, lorsqu'on a préparé cette émission, je vous disais que j'avais l'impression que vous composiez, qu'il y avait parmi vos morceaux plusieurs compositions où il y avait une réponse au
oui.
sein du chant, et vous me disiez que vous aviez été influencé par la tradition monastique.
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là ? C'est quoi la tradition monastique en l'occurrence ? C'est pas du grégorien, parce qu'on n'y retrouve pas...
Pas spécialement, mais en fait, j'ai été touché, moi, dans toute ma vie de chrétien, par les offices,
oui.
qu'ils soient monastiques ou en paroisse ou entre groupes de jeunes. Et on retrouve effectivement souvent cette alternance, soit de deux chœurs, soit d'un soliste et d'un chœur. Et en fait, je trouve cette expression très belle parce qu'elle apporte de la variation dans la musique sans en perdre quelque chose de continuel. Et souvent, j'ai l'impression, notamment dans les litanies, qu'il y a quelque chose de très beau, c'est d'installer une ambiance sur la longueur, et le côté alternant avec un soliste et un chœur permet d'apporter de la variation dans la musique sans en perdre le côté bloc, le côté continuel et le côté qu'on installe une ambiance petit à petit.
Très bien. Alors, nous allons écouter quelques extraits à présent. On va commencer avec un Pace Lingua. Je vous invite à écouter maintenant l'hymne à Saint Jean-Baptiste.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors maintenant, le Venite Adoremus avec orchestre, parce que vous composez aussi pour oui. L'orchestre
qui accompagne.
Oui. Alors, écoutons. Maintenant, Jésus au Sainte Eucharistie. Alors, je vous propose à présent d'écouter Prière pour cordes. Alors, nous avons écouté différentes compositions. Donc, vous faites finalement, comme on le disait tout à l'heure, aussi bien pour des orchestres. Alors, il y a la prière pour cordes.
Oui.
Ou alors là, pas de chœur.
Pas de chœur.
Et pourquoi ce choix?
En fait, j'avais eu cette idée en écoutant moi-même un morceau uniquement instrumental qui me semblait... dans son interprétation, être une prière. Et je me suis lancé ce défi de transmettre l'idée d'une prière sans parole. Mmh. Comme, voilà, donc la prière pour les instruments à cordes, la prière pour cordes.
Très joli. Alors, votre actualité, ce sont 3 concerts.
Oui.
Les 3, 4, 5 juin prochains.
Oui.
Donc, le 3 à Saint-Augustin.
Oui.
Le 4, vous ne savez pas encore.
Pas encore.
C'est la surprise.
La surprise.
Et le 5 à Saint-Germain-des-Prés.
Oui.
Bon, moi, je ne vais pas manquer ça.
Bien sûr.
Je serais très contente. Alors, comment est-ce qu'on peut se procurer des places?
Alors, vous n'avez pas à vous procurer des places.
Oui.
L'entrée est libre.
D'accord.
C'est, tant qu'il y a des places dans l'église, il y a des places pour les auditeurs.
Ben, c'est un grand cadeau, ça. Alors, est-ce que vous enseignez la musique?
Oui.
Où?
Alors, je suis dans 3 établissements scolaires.
Oui.
Au Collège Saint-Joseph à Saint-Cloud.
Oui.
Au Collège Hautefeuille à Courbevoie. Et à l'Institut Saint-Pilice à Saint-Cloud.
D'accord, très bien. Ils ont beaucoup de chance.
Je ne sais pas moi de dire.
Alors, est-ce que vous avez déjà composé de la musique profane?
Oui, cela m'arrive aussi. J'aime beaucoup tout style de musique et donc
Oui.
ça m'arrive aussi d'écrire des petites chansons françaises qui c'est un peu ce que j'aime beaucoup écouter aussi en plus de la musique sacrée.
C'est ce que vous enseignez à vos élèves?
Entre autres, oui.
Alors, merci beaucoup, Louis-Marie. Vraiment, je suis très touchée par tout ce que vous faites. J'avais encore une question concernant votre cœur. Est-ce que c'est un cœur figé? Ou alors, vous avez certains soirs des choristes qui ne seront pas là le lendemain forcément pour un concert.
Alors, disons que c'est un cœur figé sur une année. Quand on
D'accord.
commence l'année scolaire en septembre, on essaye d'avoir le même effectif de septembre à juin
Oui.
et de travailler avec cet effectif parce que le son du cœur se construit aussi sur la longueur et en s'écoutant et tout. Donc, on demande à ceux qui veulent nous rejoindre de prendre un engagement sur un an voilà, et de venir tous les vendredis soirs aux répétitions.
D'accord. Il passe une audition auparavant, j'imagine.
En fait, pas vraiment.
Ah bon?
Parce que on a décidé à la création du chœur que notre politique, c'était de faire progresser tout le monde d'où ils viennent. Donc, on demande seulement le désir de progresser et le désir d'être assidu aux répétitions. Et en fait, on a des très beaux témoignages dans ce chœur de
Oui.
personnes qui sont venues sans avoir jamais vu une partition de leur vie. Et du coup, on prend plus de temps avec eux, on part pupitre, on travaille beaucoup et tout. Et aujourd'hui, ils sont capables de chanter et de tenir une partie seuls. Et donc, voilà, on n'a pas cette politique de faire passer des auditions, on demande juste de la bonne volonté de venir chanter et la volonté de progresser.
Et il faut être jeune.
Il
Parce que vous êtes tous jeunes.
En fait, comme on s'est fondé quand on était étudiants,
Oui.
tous, maintenant on est plus des jeunes
Jeune pro,
professionnels, mais
oui.
oui, c'est vrai qu'on a gardé cet esprit plutôt de jeunesse dans le cœur.
Oui. Bon, écoutez, en tous les cas, merci beaucoup. Vous êtes vraiment incroyable. Je crois que quand j'écoute vos morceaux, maintenant, je commence à savoir vous reconnaître.
Ah,
Je crois que j'ai compris.
ben, j'en suis très
J'aime
touché.
beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons terminer cette émission avec le Crucifixus. Et vraiment, alors moi, elle me bouleverse.
Ah, merci beaucoup, j'en suis
C'est, je pense que je vais l'écouter en boucle jusqu'à la fin du carême. Merci beaucoup,
Merci à vous.
Louis-Marie.